Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous l'avez vécu toute la journée sur notre antenne. Les commémorations aujourd'hui du 100e anniversaire du génocide des Arméniens. 1,5 million de morts, exterminés par un empire ottoman engagé dans la Première Guerre mondiale et dont la propagande officielle fustigeait alors des ennemis de l'intérieur. Un massacre organisé, planifié, des convois, des camps de concentration. Un génocide incontestable, selon le prix Nobel de la paix Elie Wiesel. Et pourtant, toujours pas de prononciation du fameux mot par les autorités turques. Alors peut-on convaincre la Turquie de reconnaître le génocide des Arméniens ? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans ce studio. Mickaël Nichagnan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, conservateur à la Bibliothèque Nationale de France, chercheur associé au Collège de France et auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions PUF, Détruire les Arméniens, histoire d'un génocide. Deuxième invité, Guillaume Perrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant en Turquie, tout juste rentré il y a quelques mois, auteur de La Turquie et le fantôme arménien aux éditions Actes Sud, paru en 2013, et puis d'une bande dessinée documentaire dont on a déjà parlé sur cette antenne il y a quelques heures, Fantôme arménien, aux éditions Futuropolis.
Avrupa Birliği'ne müzakere süreciyle ilgili onay verilmesi.
Pas de critères de reconnaissance du génocide arménien. Il faut le dire très clairement et très nettement. Un tel événement qui s'est passé dans le passé, qui est fini, quelle partie a fait quoi? Quelle autre a fait quelle autre chose? Laissons cela aux mains des historiens. En tant qu'homme politique de cette époque-ci, d'aujourd'hui, nous devons construire l'avenir. C'est ce que nous devons faire. Je le dis partout. Il ne faut pas s'occuper de la partie vide du verre, il faut s'occuper de la partie pleine du verre. Il faut avoir une approche positive à tout ce qui se passe pour que le monde que nous allons construire, que nous allons créer, soit le monde où prédomine la paix, l'amour, la prospérité.
Barışın, huzurun, mutluluğun, sevginin egemen olduğu bir dünya.
Voilà donc pour les mots prudents, vous l'avez constaté, de celui qui est aujourd'hui le président turc, Recep Tayyip Erdogan. C'était en 2004, il était alors Premier ministre. Un discours qui, il est vrai, a évolué. L'an dernier, Erdogan lâchait le mot « condoléances ». Il y a quelques jours, il assurait que la Turquie, je cite, « partageait les souffrances des enfants et des petits-enfants des Arméniens ». Guillaume Perrier, comment comprendre ces mots qu'on a entendus, ces mots très choisis par le président turc ?
Il y a une nouvelle rhétorique qui est apparue ces dernières années, c'est-à-dire que le gouvernement turc a compris que le négationnisme caricatural, qui était celui qui avait cours depuis 90 ans, le refus net d'admettre quoi que ce soit de l'histoire de 1915 et l'inversion même des rôles, jusqu'à dire que les Arméniens avaient eux-mêmes perpétré un génocide contre les Turcs, ce négationnisme caricatural, le gouvernement turc sait aujourd'hui qu'il est inefficace. Et donc on a vu apparaître une nouvelle rhétorique un petit peu plus fine, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu. C'est lui qui vraiment pense cette question. Qui est aujourd'hui Premier ministre. C'est vraiment le numéro 2 du régime. Et cette nouvelle rhétorique parle effectivement de peine partagée, parle de condoléances, mais ne prononce jamais, évidemment, le mot d'excuse, le mot de responsabilité, le mot de réparation, le mot de justice. Et puis surtout, cette histoire de peine partagée, il y a évidemment le verre dans le fruit dès le départ. Il s'agit pour le gouvernement turc, si vous voulez, de mettre sur le même plan toutes les victimes de la Première Guerre mondiale, y compris toutes les populations déplacées des Balkans qui ont ensuite été relocalisées en Turquie.
Donc Guillaume Perrier dit nouvelle rhétorique. Mickaël Nichagnan, est-ce que vous y voyez des progrès, peut-être lents, mais quand même des progrès, en tout cas dans le verbe utilisé, dans les mots qui sont choisis ?
Bon, disons que il y a 10 ans, quand l'AKP s'installait au pouvoir, on avait l'espoir effectivement que les islamistes progresseraient sur la question du génocide, justement parce qu'ils étaient opposés aux kémalistes et qu'ils en profiteraient en fait pour critiquer l'héritage kémaliste en parlant du génocide arménien. Alors malheureusement, il faut bien dire que cet espoir a été déçu, très largement déçu, puisque les avancées constatées sont quand même très timides. Alors une des avancées quand même qu'on peut souligner, c'est que depuis 10 ans, je crois, les personnalités turques en Turquie qui prononcent le mot de génocide sont stigmatisées, mais elles ne sont plus poursuivies en justice. Donc ça, c'est quand même un progrès.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que théoriquement, dans la loi turque, c'est aujourd'hui encore passible de poursuites que de prononcer ce mot dans le cadre du génocide arménien.
Ça a été le cas pour le romancier Orhan Pamuk. Hein. En 2005, il a été accusé par la justice turque d'insulte à l'identité nationale pour avoir reconnu le génocide des Arméniens.
Alors, donc, en 2005, voulez... mais récemment, il y a eu quelques affaires. Certains l'ont prononcé, et là, il n'y a pas eu de poursuite.
Donc... Non, c'est vrai que ces dernières années, le gouvernement a abandonné ce type de poursuite et qu'il y a un laisser-faire, si vous voulez. Une partie de l'intelligentsia turque qui reconnaît ce génocide et qui milite pour la reconnaissance a les mains libres pour pouvoir affirmer ses positions.
Alors, Guillaume Berrier nous disait tout à l'heure qu'on ne prononçait pas le mot de génocide, c'est vrai, mais pas non plus celui de responsabilité ni d'excuse. À votre avis, Michael Nijalian, pourquoi, au fond, on ne reconnaît pas, pourquoi le mot de génocide n'est pas prononcé par les Turcs? Qu'est-ce qui l'explique?
Bon, bah, y a plusieurs hypothèses qui peuvent être avancées. Donc la première, c'est la question des réparations. Peut-être que la Turquie ne veut pas verser de réparations, de compensations financières. C'est une des explications possibles. La véritable raison, selon moi, c'est plutôt que la synthèse kémaliste, la structure kémaliste de l'État, le modèle kémaliste est aujourd'hui encore intouchable. On ne peut pas attaquer ce modèle kémaliste. Et parler du génocide arménien, c'est attaquer l'héritage kémaliste qui est
sacré. Alors,
qu'est-ce
que vous voulez dire? Parce que tout le monde n'est pas ici spécialiste bien de sûr. La Turquie. Qu'est-ce que ça veut dire, le modèle kémaliste? C'est quoi? C'est que la Turquie s'est construite sur un modèle et que donc le critiquer, c'est fragiliser ce qui fait la nation turque, le pays?
Oui, c'est le modèle kémaliste, c'est effectivement la création d'un nouvel homme turc, à la fois turcophone et musulman, et qui exclut en fait les autres populations donc non musulmanes et non turcophones. Et donc en fait la politique kémaliste s'inscrit dans la continuité de la politique jeune turque, c'est-à-dire c'est une politique de recomposition démographique de l'Anatolie selon le modèle effectivement de cette synthèse turco-musulmane où donc toutes les populations musulmanes étaient admises, c'est-à-dire que les turcophones, les kurdes au départ, les réfugiés musulmans des Balkans, les réfugiés musulmans du Caucase étaient admis à faire partie de cette synthèse turco-musulmane. En revanche, les populations chrétiennes, donc grecques, arméniennes, assyro-chaldéennes, elles n'ont pas trouvé place, n'ont pas été admises en fait dans cette nouvelle synthèse turco-musulmane établie entre les années 1915 et 1924, à cheval donc sur les périodes jeunes turques et kémalistes.
Alors, Guillaume Perrier, Le Monde écrivait il y a quelques jours, Le Monde pour qui vous avez travaillé quand vous étiez journaliste en Turquie, écrivait qu'il est aujourd'hui, je cite, « impossible à Ankara de renoncer à un déni qui est le socle de la Turquie moderne ». Est-ce que vous souscrivez à cette analyse?
Oui, bien sûr. C'est effectivement, on sait aujourd'hui que le génocide des Arméniens est en quelque sorte l'acte fondateur de la Turquie moderne. Si vous voulez, la construction d'un État-nation turc s'est fait évidemment au détriment des minorités non musulmanes et donc s'est fait sur l'élimination de ces minorités. Donc effectivement, c'est un acte fondateur pour les institutions turques. Imaginez que la présidence de la République turque a été hébergée à Ankara pendant 99 ans dans une propriété qui a été spoliée à une famille d'Arméniens pendant le génocide. Imaginez la force de ce symbole.
Ça veut dire que aujourd'hui, le régime turc pense que s'il prononce le mot de génocide, il se met en danger en tant que régime?
Bien sûr, bien entendu. Et c'est pour ça que la Turquie, pour franchir l'obstacle, doit se démocratiser et doit passer à une deuxième république, en quelque sorte.
Mais rappelons d'ailleurs qu'il y a des élections dans quelques semaines en Turquie,
oui, alors,
début juin.
Des élections qui seront remportées par Recep Tayyip Erdogan, une fois de plus, et qui ne feront évoluer absolument pas la politique turque dans le bon sens. Donc, il faut que la Turquie, aujourd'hui, se démocratise et fasse à son passé. Ça ne peut se faire que dans un même élan.
Alors, vous avez prononcé un mot important tout à l'heure, Michael Nijalian, c'est le mot de réparation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement pourquoi est-ce que si la Turquie reconnaissait le génocide arménien, elle devrait rembourser, faire des réparations au peuple d'Arménie?
Disons que les modalités de ces réparations sont encore très vagues, hein, puisque la reconnaissance même n'a pas été prononcée. Mais on peut De toute façon, ça se ferait dans le cadre d'une négociation d'État à État entre l'État turc et l'État arménien. Et on peut imaginer différentes sortes de réparations. On pourrait imaginer des réparations qui seraient cantonnées à la sphère culturelle. Par exemple, les biens culturels, les églises, les monastères, les manuscrits qui ont été confisqués. Peut-être ça pourrait se cantonner à ça. Ou alors, ça pourrait être des réparations plus larges, donc qui comprendrait également les biens arméniens, c'est-à-dire les terres, les
maisons. Ce fameux palais dont vous nous parlez à l'instant, par exemple, le palais de la présidence.
Mais d'autres exemples foisonnent. Des aéroports, une base de l'OTAN qui est construite sur un terrain immense qui appartenait à plus de 200 familles arméniennes qui ont été répertoriées aux États-Unis. Donc il y a des exemples par centaines, si vous voulez, de tout ça.
Et est-ce que ça, c'est un débat dont on parle aujourd'hui en Turquie?
On n'en parle pas, bien sûr, mais il est sous-jacent à la question de la reconnaissance, puisque qui dit reconnaissance dit réparation des dédommagements des victimes. Hein. On est dans un cas de génocide, donc il n'y a pas de période de prescription. C'est évidemment la question qui découle de la reconnaissance, la question des réparations. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la Turquie a quand même les reins suffisamment solides économiquement pour affronter une telle somme. Je pense pas que l'argument économique soit le principal. Je pense qu'encore une fois, le frein principal, c'est le fondement institutionnel et identitaire de la Turquie moderne, c'est-à-dire le génocide des Arméniens.
Alors, avant d'en arriver aux pressions internationales, hein, tous ces États, ces institutions qui reconnaissent le génocide, je voudrais juste faire un petit point et rappeler que dès la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait eu des tentatives de juger ces hauts responsables. Donc, comment ça se fait qu'on soit passé en 1918 à être si proche de la reconnaissance à aujourd'hui?
Oui, alors ça c'est important, effectivement. Il faut rappeler qu'entre 1918 et 1920, peut-être même 22, en tout cas au moins pendant 2 ans, il y a eu une reconnaissance des nouveaux gouvernements ottomans de l'immédiate après-guerre, donc des années 18, 19, 20. Alors ces nouveaux gouvernements étaient des opposants aux jeunes turcs qui ont voulu juger les responsables du processus génocidaire, notamment en 1918. Il y a eu un grand procès des dirigeants jeunes turcs, dont les plus connus, hein, Talat, Enver, Cemal, qui étaient d'ailleurs en fuite en Allemagne. Et en fait, ces procès ont abouti à une situation curieuse où, en fait, les dirigeants jeunes turcs en fuite ont été condamnés à mort par contumace, et ceux qui étaient présents ont été condamnés à des peines très légères ou acquittés. Donc, on voit bien que c'était une tentative des nouveaux gouvernements de jeter le discrédit sur les jeunes turcs pour
ouais, changement
les...
de régime, donc du coup on condamne ce qui a été fait par le régime d'avant.
Voilà.
Alors, venons-en donc à cette mobilisation des acteurs internationaux. L'un des plus récents, c'est le pape, il y a quelques jours, alors qu'il célèbre une messe devant des catholiques arméniens. François brise un tabou. Le massacre des Arméniens constitue, dit-il, l'une des grandes tragédies du siècle.
La première,
quella che generalmente,
qui est largement considérée comme le premier génocide du XXe siècle,
genocidio del ventesimo secolo,
a frappé votre peuple arménien.
Alors, une déclaration qui, comme prévu, suscite évidemment l'ire d'Ankara. Guillaume Perrier, est-ce que ce type de déclaration peut changer la donne?
De la part du pape ou de la part d'Ankara?
De la part du pape.
Je crois que tout isolé, de manière isolée, non, mais la série de reconnaissances qu'il y a eu là, successives, le pape, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays, a évidemment mis la Turquie dans une position beaucoup plus difficile qu'auparavant, notamment la position de l'Allemagne. Je dirais que la position du pape, évidemment, donne une force morale à cette question, mais la position de l'Allemagne est extrêmement importante. Hein. Je rappelle, l'Allemagne a reconnu sa co-responsabilité, voire sa complicité dans le génocide des Arméniens de 1915.
Pourtant, on a l'impression que les réactions sont de plus en plus, crispées aussi d'Ankara.
Pas de plus en plus, elles sont classiques, hein, elles sont conformes à ce qu'a toujours été la réaction d'Ankara sur cette question. Souvenez-vous, quand la France a reconnu le génocide des Arméniens, ça a été suivi d'une période de boycott extrêmement violente, de déclarations très très dures aussi. Donc c'est une réaction classique d'un État sur la défensive.
Mickaël Nichanian, le point de vue de l'historien peut-être, est-ce qu'on a des modèles comme ça de déclarations qui se sont multipliées, qui ont fini par avoir de l'effet?
Il faut quand même se rappeler que entre la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y avait de nombreuses pressions internationales, des grandes puissances européennes sur l'Empire ottoman, pour le forcer à évoluer, pour le forcer à faire des réformes en faveur des minorités, et que ces pressions ont abouti à l'effet exactement inverse, c'est-à-dire à la volonté de l'Empire ottoman de se débarrasser de ces minorités au lieu de leur accorder des réformes. Et donc, on peut aussi imaginer que dans l'état actuel des choses, en fait, ces pressions internationales renforcent la conviction des dirigeants turcs que il y a une sorte de complot international contre la Turquie, et on sait que c'est déjà l'état d'esprit dans lequel
ça renforce leur conviction ou ça alimente leur propagande.
Non, je pense que c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit assez largement répandu dans les élites turques de penser qu'il y a une sorte de complot contre la Turquie. Si il y a des obstacles qui sont dressés à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est parce que l'Europe n'aime pas la Turquie. Donc il y a toute une série de il y a une rhétorique quand même qui correspond quand même à une conviction, je pense.
Mais alors vous êtes en train de nous dire que dans la classe politique turque au pouvoir, en tout cas donc du côté de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, les lignes bougent pas du tout, Guillaume Perrier, vous êtes d'accord ?
Non, pas trop, parce qu'ils sont au pouvoir, donc ils n'ont aucun intérêt à faire bouger ces lignes, c'est surtout ça. Je pense que si on prend la plupart des députés AKP aujourd'hui, un par un, de manière individuelle, une grande partie parlera de 1915 comme d'un génocide, ou en tout cas le reconnaîtra et ne s'y opposera pas avec la même virulence. En tant que parti au pouvoir, c'est quelque chose qui reste encore complètement impensable, parce qu'il y a ce verrouillage identitaire et institutionnel qui est encore une fois le socle de la construction de la Turquie.
Et alors du coup, dans l'opposition peut-être ?
L'opposition a évolué, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement aujourd'hui on voit l'opposition kémaliste qui commence timidement à lever le voile un petit peu. Le grand quotidien kémaliste, Cumhuriyet, donc, qui était l'organe vraiment du parti kémaliste d'Atatürk, hein, se bat a écrit à la une en arménien, plus jamais ça. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution. On voit qu'il y a des franges de la société turque de plus en plus variées qui reconnaissent le génocide aujourd'hui.
Alors il y a la classe politique dont on vient de parler, il y a aussi du côté des historiens, j'ai lu ça, du côté des universitaires, une mobilisation, dit-on, de plus en plus grande. Vous la constatez, vous, en tant qu'historien, Michael?
Oui, alors effectivement, on sait que les intellectuels bougent, donc il y a des grandes figures comme l'avocate de
Fethiye Çetin,
l'avocate de
Randink.
Randink, merci.
Donc c'est la fin du marathon médiatique pour vous deux. Vous êtes un petit peu fatigués.
Oui, on va y arriver. Il y a des grandes figures médiatiques. Il y a l'universitaire Edem Eldem qui a aussi, n'hésite pas à critiquer le négationnisme d'État, à prononcer le mot de génocide. Il y a le journaliste très connu, donc Hassan Cemal, qui est un grand éditorialiste, qui a écrit un livre sur le génocide donc perpétré par son grand-père. En réalité, puisqu'il est le petit-fils de Cemal Pasha, qui faisait partie donc des dirigeants jeunes turcs.
Qui se sont exilés, qui ont fui en Allemagne. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si les professeurs qui donc donnent des cours à l'université commencent à reconnaître ce génocide et militent pour ça, ils sont en train aussi de créer une nouvelle génération. Donc finalement, les choses vont bouger comme ça aussi, peut-être, non?
C'est les professeurs qui donnent des cours dans certaines universités. On parle vraiment d'une élite intellectuelle là, dans le pays, hein. C'est pas les professeurs des grandes universités publiques du pays, donc il faut quand même faire attention à pas non plus imaginer que...
C'est vraiment très minoritaire pour l'instant.
Pour l'instant, oui. Après, ça reste un progrès fulgurant par rapport à il y a 10 ans, donc tout est question de mesure aussi dans le temps. C'est vrai que il y a une incompréhension là entre la diaspora arménienne qui attend impatiemment depuis 100 ans et cette intelligentsia turque qui a découvert le sujet il y a une dizaine d'années, donc il y a effectivement une incompréhension temporelle fondamentale.
Et d'ailleurs, ce soir, comme depuis quelques années, 4 ou 5 à Istanbul, des milliers de personnes se rassemblent pour commémorer ce génocide. Dans la société civile aussi, il y a des associations, je sais pas, des groupes de pression qui commencent à monter.
Oui, c'est très important. C'est même d'ailleurs le phénomène le plus frappant de ces dernières années. Autant les autorités politiques n'évoluent pas beaucoup, autant la société civile a vraiment déplacé des montagnes en Turquie ces dernières années. Donc on voit apparaître ça, et pas seulement à Istanbul, hein, puisqu'il y a des commémorations dans plus de 20 villes aujourd'hui, dans tout le pays, dans toutes les couches de la société. Donc on a vraiment une lame de fond aujourd'hui, une libération de la parole qui poussera fatalement un jour le gouvernement à changer d'avis.
Donc pas encore de reconnaissance du génocide, mais des choses qui évoluent petit à petit. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission sur le génocide arménien, génocide sur lequel on continue de se pencher ce week-end sur RFI dans Religion du Monde. Monde International, Orient Hebdo ou encore Carrefour de l'Europe. Merci à nos deux invités, Mickaël Nichanian, historien, auteur de Détruire les Arméniens, histoire d'un génocide, Guillaume Perrier, auteur de Fantômes arméniens. Merci à Florence Ponce et à Fabrice Viollet à la réalisation. Lundi, un nouveau débat, les chrétiens et le groupe État islamique.